Pour le message d'aujourd'hui, reportez-vous en commençant à Jean, le chapitre 15. L'Évangile de Jean, le chapitre 15. Une petite phrase du Christ, très importante, qui renferme en fait tout le sens de notre démarche chrétienne vers la vie éternelle. Jean 15 et le verset 8. Le Christ déclare ceci. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Donc, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Voyez-vous ce que ça fait lorsqu'on porte du fruit de l'Esprit de Dieu? C'est que Dieu est glorifié à ce moment-là. Et on connaît quels sont les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, on n'a pas besoin de vous y reporter, mais on dit que c'est l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la patience, et ainsi de suite. Alors, plus on développe, par l'Esprit de Dieu, ces fruits-là, plus Dieu est glorifié, et plus nous sommes les disciples de Christ. Parce qu'il dit, par ça, vous allez être mes disciples. Donc, plus on est renforcé dans ça, dans cette approche-là, plus on est profondément et solidement disciple du Christ, et plus on glorifie notre Dieu, parce qu'on porte les fruits de son esprit, on développe son caractère en vue de la vie éternelle qu'il veut nous donner pour qu'on soit capable d'administrer des régions, des villes, des pays et de servir les gens de bonne façon avec le caractère parfait de Dieu. Et ça, c'est possible seulement, on le voit au verset 5, c'est possible seulement par le Christ qui vit en nous. Jean 15, verset 5, le Christ dit, « Je suis le sceptre. » C'est moi qui suis le plant de vigne, autrement dit. « Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, voyez-vous, il faut demeurer dans lui, que le Christ demeure en moi pour que je porte du fruit, pour que ce soit selon son esprit, ces fruits-là. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, c'est une donnée de base qu'on doit se rappeler constamment. Et si on s'en rappelle, ça nous aide à nous tourner vers Dieu dès qu'on a besoin, ou même nous tourner vers Dieu pour être sûr de faire sa volonté. Faisant ça, on porte du fruit, on glorifie Dieu et on se prépare pour les choses qui viennent. Et d'où l'importance du verset qu'on trouve dans Galates 2, verset 20, que M. Meredith cite si souvent, où c'est écrit « Ce n'est plus moi qui vis lorsque je suis baptisé et que je reçois l'Esprit de Dieu ». Je reçois le Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Alors, voyez-vous, quand on accepte de reconnaître nos fautes, qu'on demande pardon à Dieu, qu'on passe par les eaux du baptême, qu'on est une nouvelle créature avec une vie nouvelle lorsqu'on sort des eaux du baptême et que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Là, on commence cette vie nouvelle et on a besoin que le Christ vive en nous, combatte pour nous, nous encourage, nous montre le chemin à suivre. Mais il faut lui demander et il faut continuer à vouloir humblement. C'est notre chemin qu'on a à faire. Et c'est précieux parce que il y a très peu de gens qui sont appelés à notre époque. Il y a un tout petit troupeau. La grande majorité vont être appelés plus tard, on le sait. Après que le Christ va être revenu, après la grande détresse, ceux qui seront encore vivants, là, vont avoir la même chance d'être appelés, de comprendre le plan de Dieu, de voir qu'ils ont transgressé les lois de Dieu, de s'en repentir, de le regretter, de vouloir changer, de pouvoir recevoir l'aide de Dieu pour le faire. Et après ça, au bout du 1000 ans, comme on sait par le magnifique plan de Dieu, après ça, tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire de l'humanité vont être ramenés à la vie et vont avoir eux aussi leur chance parce que Dieu est un Dieu juste. Mais pour le moment, comme la Bible dit, c'est un tout petit troupeau qui est appelé. Un tout petit troupeau. Mais le but de Dieu, lui, ne change pas. Oui, le but de Dieu n'a jamais changé depuis le début de la création de l'humanité. Et quand on va voir dans 1 Timothée 2, verset 3, c'est écrit clairement quel est le but de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'au point de départ, aucun être humain n'est sauvé, c'est-à-dire aucun être humain n'a la vie éternelle, et aucun être humain n'a la connaissance de la vérité. Il faut que ça nous soit révélé. Quand Dieu appelle quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il lui révèle la vérité. Et plus la personne se met en marche pour obéir aux lois de Dieu, plus Dieu lui révèle de vérité. Il lui donne de comprendre des vérités. Et c'est vrai tout au long de notre vie chrétienne, jusqu'à temps que ce soit terminé, soit qu'on meure ou soit qu'on soit changé au moment du retour de Christ. Mais Dieu veut, depuis le début, que tous les êtres humains puissent avoir la chance de se voir offrir le salut et la connaissance de la vérité, mais à des époques différentes. Nous, pour le moment, nous sommes les prémices. Nous sommes les prémices. C'est un fait. Et nous devons vaincre. On est appelé pas pour rester dans la condition où on était quand il nous a appelés. Dieu veut qu'on change pour qu'on soit heureux. Il dit « Suivez mes lois pour que vous soyez heureux, vous et vos enfants. » Alors nous, on doit vaincre, on doit développer le caractère de Dieu et on doit porter du fruit de repentance puis du fruit de son Saint-Esprit, comme on a vu tantôt ce qui est marqué dans Galates 5. Plus notre vie se développe, plus on fait l'expérience avec Dieu, plus on doit être proche de Dieu. Et plus il doit y avoir des fruits dans notre vie. C'est normal. C'est un processus de croissance, la vie chrétienne. Jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au jour où lui va nous rendre parfaits. Parce que quand Christ va revenir, nous ne serons pas encore parfaits. Même si nous aurons fait tous les efforts avec l'aide de Dieu, nous ne serons pas encore rendus à la perfection. Il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ, comme c'est marqué dans Éphésiens 1, verset 6. Mais voyez-vous, c'est pas surprenant que les changements dans votre vie et dans ma vie, ça doit paraître en quelque part. Ça doit paraître pour les gens qui sont autour de nous. Quand le Christ a dit, là, « Soyez le sel de la terre », bien, quand vous mettez un peu de sel sur quelque chose, ça change le goût, hein, ça améliore le goût. J'ai mangé des œufs tout à l'heure. Si j'avais mangé des œufs sans mettre un peu de sel dessus, c'est fade. Ça n'a pratiquement pas de goût, des œufs. Mais si vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, ça a un bon goût, ça donne une saveur. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous avez le Christ en vous, ça doit paraître autour. Il y a des gens qui doivent voir des changements de comportement et qui doivent trouver ça bon de vous voir devenir cette nouvelle personne que vous n'étiez pas avant. Et ça s'applique pour moi aussi. Là où certains d'entre nous étions plus égoïstes ou tournés vers nous, on doit se tourner vers les autres puis se préoccuper d'eux autres. Ça doit être goûté, ça doit être perçu, ça doit paraître. Là où on était peut-être dur, on devient plus doux, on s'adoucit, on devient gentil. Et ainsi de suite sur tout l'ensemble des comportements humains. La politesse envers les autres. Le fait, je sais pas, d'ouvrir une porte, même à un étranger, pour l'aider à entrer quelque part, à aider une vieille dame à traverser la rue ou dans un besoin particulier. Voyez-vous, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, les fils et les filles de Dieu doivent déjà avoir un comportement qu'on aura dans le monde à venir et qu'on va enseigner dans le monde à venir. Voyez-vous? C'est ce qu'on doit développer et ça doit paraître au bout. C'est ça, porter du fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Voyez-vous que ça va ensemble, ça. Et c'est un travail constant sur nous-mêmes tout au long de notre vie. Mais je vous apprends rien, là, mais vous savez que c'est plus exigeant pour nous maintenant, beaucoup plus exigeant pour nous maintenant qui sommes les prémices, que pour ceux qui vont être appelés après le retour de Christ, ou pour ceux qui vont être appelés à la résurrection du jugement du grand trône blanc. Parce qu'eux autres n'auront pas Satan à vaincre. Eux autres ne vivront pas dans un monde qui est le monde de Satan et qui est orienté pour inciter les gens à faire toutes sortes de choses mauvaises. Ça ne sera pas un monde comme ça. Le monde va être changé. Parce qu'après le retour de Christ, graduellement, toute la terre va observer, par exemple, le sabbat. Toute la terre va observer les fêtes. Ça sera facile d'observer le jour du sabbat parce qu'il n'y aura rien d'ouvert. Il n'y aura pas de commerce qui va fonctionner. Il n'y aura pas de... Voyez-vous, tout sera arrêté à ce moment-là parce que à la grandeur de la terre. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Et la même chose pour les autres commandements, parce que vous allez avoir devant vous des gens qui vont essayer d'être honnêtes dans leurs transactions. Ils vont être en train de l'apprendre. Ils vont l'apprendre de plus en plus. Et il y aura des serviteurs de Dieu qui vont leur enseigner chaque sabbat. Vous, si vous êtes fidèles, si vous persévérez, vous allez leur montrer, ou vous allez les visiter chez eux, les aider à corriger certaines choses, les encourager de la bonne façon pour faire les choses selon Dieu, le monde va changer. Ce sera facile, beaucoup plus, pour les gens qui seront appelés dans le monde de demain que pour vous maintenant, qui vivez à l'envers du courant de la société. Parce que vous faites les choses maintenant différemment des gens autour de vous et différemment de ce que vous faisiez avant. Et c'est pour ça que vous êtes vu comme parfois un peu bizarre de ne plus participer aux mêmes choses qu'avant, parce que vous observez un jour que les gens dans l'ensemble n'observent pas. Vous observez des fêtes que les gens ne connaissent pas. Vous n'observez plus Noël et ce genre de fêtes-là que les gens, eux, ont grand plaisir à observer et dans lesquelles ils investissent énormément d'argent et de souffrance, alors que vous faites les choses autrement. Mais ce faisant, vous êtes déjà le sel de la terre. Vous êtes déjà le sel de la terre, le sel de la terre parce que vous faites les choses différemment. Mais c'est plus exigeant pour vous maintenant. Mais on a les plus grandes promesses par rapport à ça, parce que nous allons être les serviteurs dirigeants du monde de demain si nous tenons ferme jusqu'à la fin. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Allez dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1. Et regardez le verset 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout, c'est bien dit tout, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à la vie chrétienne. Donc Dieu dit ici, et c'est une promesse, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour arriver au but. Même si vous connaissez des hauts, des bas, des moments de découragement, ce qui est humain, des moments de ralenti, je vous ai donné les moyens pour en sortir. Parce que comme il mentionne dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il n'y a aucune épreuve ou aucune difficulté ou aucune situation difficile qui ne vous ait été donnée et pour laquelle il n'y a pas une façon d'en sortir. Et Dieu, qui est fidèle, a promis de vous aider d'en sortir. Vous pourrez aller voir cette promesse-là dans 1 Corinthiens 10. C'est fantastique. Et quand il nous arrive un mur, ce que j'appelle un mur, c'est une épreuve dans laquelle on ne voit pas d'issue, qui est pesante, qui est difficile, on peut dire à Dieu, « T'as fait une promesse, Père. » T'as promis qu'il n'y a aucune épreuve qui me surviendrait, qui est insurmontable, qui soit plus qu'humaine, et tu as promis de nous aider. J'implore ta miséricorde et ton aide pour que je sois capable de passer au travers. Et Dieu va répondre, parce que c'est selon sa volonté. Vous pouvez même réclamer cette promesse-là ici. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie chrétienne, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Plus on porte du fruit, plus on devient participant de la nature divine, plus on développe la nature de Dieu en nous, par son esprit, par le Christ en nous, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En nous éloignant de la façon de faire qu'on avait avant, dans la transgression des lois de Dieu, en mettant en pratique les lois de Dieu dans notre vie. Maintenant, aujourd'hui, dans le sermon, on va voir simplement deux moyens essentiels pour entretenir la vie spirituelle dans nous autres. Parce qu'il faut l'entretenir, cette vie spirituelle-là. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous est indiqué de ne pas faire en sorte que l'Esprit de Dieu soit diminué, de ne pas éteindre l'Esprit. Donc, c'est possible d'éteindre l'Esprit si on se comporte de certaines façons. Mais on va voir deux moyens essentiels pour entretenir l'action du Saint-Esprit en nous autres et aussi pour raviver l'action du Saint-Esprit, ou comme la Bible dit, pour raviver la flamme. Parce que ça nous arrive à chacun de nous de faiblir parfois. Écoutez, on est encore des êtres humains. On n'est pas parfait. On n'a pas toute la puissance. La puissance, elle existe, elle est à notre disposition. Il faut aller la chercher et l'utiliser pour justement garder le momentum et continuer. Parce qu'il nous arrive à tous, on est humain, on vit dans des circonstances physiques humaines, il nous arrive à tous de nous laisser, moi je dirais, envahir parfois par les soucis humains. Ils sont là, les soucis. Pour chacun et chacune d'entre vous, je le sais, chaque semaine, il y en a des soucis. Et on y fait face, on essaie de régler les choses, mais on ne peut pas l'éviter, c'est comme ça. Et à travers ça, Dieu nous apprend des choses importantes, dont la principale, de se confier à lui, de se fier sur lui et de lui demander son aide. mais ça nous arrive. Ou parfois des inquiétudes. Et c'est humain de s'inquiéter. On a des épreuves. Et ça nous ralentit. Parfois, la Bible nous corrige. On fait des études bibliques où on entend un sermon. Et oups, ça nous touche, nous. Là, je dis, oups, j'ai quelque chose à changer, moi, là. Et que je veuille ou non, il faut que je m'attaque à ce problème-là. Il faut que je règle ça dans ma vie pour que ça soit plus un empêchement à Dieu de me répondre ou que ça ne soit pas quelque chose qui me garde loin de Dieu. Parce que je veux être le plus proche possible de Dieu et non pas éloigné de lui. Pour que quand j'appelle, il m'entend tout de suite. Et on va voir tantôt dans un exemple assez frappant que quand on est proche de Dieu, Dieu répond immédiatement. Selon les besoins, selon les circonstances, mais il prend soin, totalement de ses enfants. Mais il faut être proche de lui. Et le fait de ranimer la flamme, comme ça, ça nous garde proche de lui. Et il y a un autre danger aussi. Je dis ça pour les plus anciens dans l'Église. Il y a le danger du temps. Parce que quand ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, parfois, on dit, bon, ça fait longtemps, il y a peut-être encore longtemps de temps à attendre, et ainsi de suite. C'est comme les enfants, vous savez, quand on fait un long voyage, là. On arrive-tu bientôt? Est-ce qu'on est proche d'arriver, papa? Est-ce que la fin est proche? C'est un peu la même chose. Et pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, ça peut risquer de devenir comme la routine un peu. On sait ces choses-là, puis on continue. Mais simple, il ne faut pas rien que savoir, puis continuer, négligemment, ou petit train va loin. Non, il faut garder le même zèle, ranimer la flamme, malgré la longueur du voyage, parce qu'on est proche. Et ça semble plus long encore lorsqu'on est plus proche du but. C'est comme ça. Et si vous remarquez dans les accidents de la route qui arrivent dû à ceux qui s'endorment au volant, c'est, d'après les statistiques, le plus proche de chez eux que les gens s'endorment au volant et se tuent. Après avoir fait parfois une grande route, j'avais un ami qui travaillait avec moi à Ottawa à un moment donné, et lui voyageait chaque semaine dans les cantons de l'Est en voiture, et habitué à conduire été, hiver, tout ça, ça fait plusieurs heures de route, cela. Ça doit faire quelque chose comme 7-8 heures de route. Pour se rendre chez lui après sa semaine de travail. Alors, finalement, un soir, tout près de chez lui, il s'est endormi au volant, il s'est tué. Alors, il faut faire attention lorsqu'on est proche du but, et on est proche du but, de ne pas ralentir et de dire « je vais m'assoupir un peu ». Non, il faut garder le même élan, parce que vers la fin, il faudra même, je pense, donner un effort additionnel et être encore plus proche de Dieu pour être capable de passer au travers. C'est arrivé à quelqu'un dans l'Église. Allez voir dans 2 Timothée. 2 Timothée. C'est arrivé à un membre de l'Église. Quelqu'un qui était membre d'Église depuis longtemps et qui avait commencé à ralentir. 2 Timothée. C'est arrivé justement à ce monsieur Timothée ici. Paul lui écrit. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce passage-là sous l'angle du fait que Timothée avait commencé à réduire la cadence et qu'il avait besoin de redevenir plus zélé, plus enthousiaste, plus proche de Dieu. 2 Timothée 1 et le verset 6. C'est Paul qui parle à cet homme-là, qui était dans l'Église depuis très longtemps. On le voit de par le contexte. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, si Paul dit à Timothée, ranime le don du Saint-Esprit en toi, c'est parce que la flamme avait diminué. C'était un membre d'Église depuis longtemps. Il dit, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul l'avait baptisé, Paul lui avait imposé les mains, comme on fait lorsqu'on baptise quelqu'un, et à ce moment-là, il avait reçu le don de Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Et au temps de la fin, nous avons besoin, chacun et chacune d'entre nous, d'avoir force, amour, sagesse. Pour terminer le travail. Au point de départ, nous sommes rien. Je vous apprends pas quelque chose de nouveau, là. Au point de départ, nous ne sommes rien. Tout nous vient de Dieu. L'existence physique, l'existence spirituelle, la nourriture physique, la nourriture spirituelle, l'encouragement, le pardon, la miséricorde, le fait d'être transformé. Et pourtant, Dieu part de très loin avec nous. Il part de très loin. Allez dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Dieu décrit ceux qu'il appelle à cette époque. Considérez, frères, verset 26, 1 Corinthiens 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, le petit troupeau dont je parlais tantôt, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, des gens avec des grands titres ou tout ça, ou avec des titres de noblesse. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre celles qui se disent sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre celles qui se disent fortes et qui se pensent fortes en ce moment. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. On a vu tantôt que quand on porte du fruit, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour notre gloire. Alors c'est pour ça que je reviens à ce thème-là, porter du fruit pour la gloire de Dieu, et Dieu appelle les choses faibles du monde que nous sommes pour nous donner de porter du fruit par sa puissance, ce qui nous est donné, ce dont on doit être reconnaissant envers lui. Et ce faisant, nous glorifions notre Dieu parce que ça goûte bon pour ceux autour de nous, parce que nous vivons selon les lois de Dieu. Nous respectons notre parole donnée. Nous sommes honnêtes dans nos rapports d'impôts avec le gouvernement. Nous sommes honnêtes avec les gens autour. Nous efforçons, comme M. Appartient nous a si souvent montré, il dit, si vous n'avez rien de bon à dire de quelqu'un, ne parlez pas. Dites des choses bonnes de quelqu'un. Ne critiquez pas, ne descendez pas les autres. D'où le fait que l'unité se développe dans l'Église et l'amour réel se développe dans l'Église. Or, si c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et quand on sera arrivé de l'autre côté, dans le monde à venir, qu'on aura franchi la barre de la mortalité pour recevoir l'immortalité et naître en tant qu'enfant de Dieu, on va tout devoir à Dieu. On n'aura rien à se vanter de. Il y aura tellement de merci à dire que Dieu nous ait conduits à terme, qu'il nous ait menés, comme je dis souvent à Dieu quand il m'aide à passer à travers certaines épreuves, qu'il nous aura menés sur des ailes d'aigle, comme l'expression qu'il utilise qui est tellement encourageante. Mais vous savez une chose? En vous appelant personnellement et en vous pardonnant maintenant, en vous permettant de passer par les eaux du baptême et en vous appelant à changer, vous savez ce que Dieu a fait? C'est que Dieu a choisi un futur roi. En vous appelant maintenant, Dieu a choisi un futur roi. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. C'est important de le voir parce que c'est un grand encouragement. Pas pour notre gloriole, mais pour la gloire de Dieu. Mais c'est une expérience extraordinaire, parce qu'il nous appelle à devenir des rois serviteurs, des dirigeants serviteurs. Allez à 1 Samuel 16, verset 6. 1 Samuel, chapitre 16, et on va lire à partir du verset 6. Si vous êtes comme moi, parfois on se demande, on dit, pourquoi Dieu m'a choisi moi, puis pas un autre? Pourquoi il vous a choisi vous? Et pas la personne qui habite voisin de chez vous, ou un de vos frères, ou quelqu'un de plus puissant que nous, quelqu'un de plus intelligent que moi, quelqu'un de plus fort, quelles que soient les qualités, si vous voulez. On se demande ça, pourquoi il m'a appelé moi? Et des fois, les gens nous disent ça. On ne sait pas les détails. Un jour, peut-être, Dieu nous le dira. Mais je pense qu'on peut, par la Bible, en voyant certains exemples, voir que Dieu recherchait certaines attitudes de cœur dans ceux qu'il a appelés. Pas parce qu'on était meilleur que d'autres, pas du tout. Mais Dieu regarde au cœur pour choisir les futurs dirigeants du monde de demain. Dieu regarde au cœur, c'est là qu'il regarde. Il ne regarde pas si la personne est parfaite au point de départ. Il ne regarde pas si elle est super intelligente, si elle a plein de notoriété ou quoi que ce soit, ou qu'elle est absolument riche. Il regarde au cœur. Regardez comment le roi David a été choisi. 1 Samuel 16. On va commencer au verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? » Parce que Samuel était un grand ami du roi Saül, puis était désolé que Saül perde sa royauté. « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Alors Dieu avait choisi lequel des fils d'Isaïe il allait oindre comme roi. Maintenant, allons au verset 6. Là, le prophète a fait venir les enfants d'Isaïe. Verset 6. « Lorsqu'ils entrèrent, le prophète se dit, en voyant Éliab, un des fils, « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Donc, il dit, c'est celui-là, qui est celui qui vient d'entrer. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, donc à son aspect extérieur et à la hauteur de sa taille. Probablement, c'était un gros et grand homme qui paraissait bien. Car je l'ai rejeté. L'Éternel, regardez bien le principe, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et quand on voit la vie de David, on voit que dans le cœur de David, c'était un homme qui était enseignable, qui avait une attitude d'humilité. Il acceptait de changer quand il voyait ses fautes. C'est ça, une attitude d'humilité. Et Dieu a aimé ce qu'il a vu dans le cœur de David et il l'a choisi pour roi sur Israël. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Dieu a travaillé avec David et David a pu expérimenter plusieurs interventions de Dieu tout au long de sa vie, plusieurs bénédictions de Dieu. On le voit quand on lit la vie de David. Il y a eu pourtant des grandes épreuves, David. Je vous ai dit tantôt que parfois on a des soucis, parfois on a des inquiétudes, parfois on reçoit des corrections, soit par le ministère, soit par la Bible. Parfois, on est dans des situations où il n'y a pas d'issue. David a connu tout ça. Mais David ne s'est pas détourné de Dieu. David a accepté d'apprendre. Il s'est humilié devant Dieu. Comme nous devons faire. C'est un exemple, parce que nous aussi, on s'en va vers la royauté. Comme David est devenu roi, et va devenir encore roi sur Israël lorsqu'il sera ramené à la vie. Et regardez comment David parle de son grand Dieu au cours des expériences que Dieu lui a donné de vivre avec lui. Dieu a manifesté sa présence à David à différentes occasions, de façon extraordinaire. Regardez psaume 103. Psaume chapitre 103. Psaume 103, à partir du verset 1. Regardez comment David parle de Dieu. Ce Dieu-là qui l'a appelé, qui lui a pardonné ses fautes et qui a travaillé avec lui pour développer son caractère en lui, ayant vu un cœur humble, enseignable. Regardez ce que David dit. « Mon âme bénit l'Éternel. » Ça veut dire « Sois reconnaissant envers l'Éternel. Obéis à l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je le reconnais comme mon Dieu, mon Père, celui qui m'aide, qui me pardonne. Mon âme, verset 2, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Malgré la vie extrêmement pénible que David a vécue pendant de longues périodes parfois, regardez comment il parle de Dieu avec affection, avec amour. Ce n'est pas du bout des lèvres, ce n'est pas simplement une routine. On sent que ça vient du cœur. Et Dieu veut que ceux qui lui appartiennent de tout cœur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourtant, David, après avoir été oint comme roi sur Israël, vous savez, il a fui pendant une dizaine d'années le roi Saül qui était encore en poste et qui essayait de le tuer. On parle d'une épreuve, là. Jamais vous ni moi n'avons vécu une chose semblable. Et David savait qu'il avait été oint pour être le roi sur Israël. Ce qu'il voyait et ce qu'il vivait, c'était le contraire de ce qui avait été dit sur le plan humain. Il était en fuite et sa vie était en péril. Et il y a eu des décisions à prendre, des choix à faire qui le mettaient, qui le confrontaient avec la loi de Dieu ou désobéir. Quand à un moment donné, je pense qu'à deux reprises, il aurait pu tuer Saül. Et que même les hommes qui étaient avec lui, avec David, disaient, tue-le, c'est l'Éternel qui le place devant toi. Tu vois pas, là, ton ennemi est là, tu as juste à me le dire et je vais planter ma lance dans Saül et il va être mort, tu vas devenir roi sur Israël. Et David a dit, non, on portera pas la main sur le oint de l'Éternel. C'est fort, c'est fort. Il a fait ce qu'il devait faire. Il savait quoi faire, il l'a fait. Cœur humble, soumis à Dieu, qui ne change pas sa trajectoire selon les circonstances. Absolument pas. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il était placé pour dire ça. Mais moi aussi, je suis placé pour dire ça. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Parce que dans le tout, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop encore. Et ça m'arrive souvent de manquer mon coup. J'ai encore besoin de demander. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Et tant qu'on est en repentance et qu'on travaille pour vraiment vaincre nos faiblesses, Dieu nous aide, Dieu nous pardonne, Dieu est avec nous, Dieu est proche. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et on le voit de plus en plus intervenir dans l'Église actuellement pour guérir des gens qui sont atteints de différentes maladies, dont des maladies très graves. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, et il l'avait vécu, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Voyez-vous, Dieu nous donne son Saint-Esprit Et Dieu nous donne, comme on l'a vu tantôt, tout ce qu'il faut pour que nous réussissions à atteindre le but. Et quand vous regardez la vie de David, Dieu lui a donné, parce qu'il a été fidèle dans toutes les circonstances, Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il réussisse à atteindre le but. Et il l'a atteint. Tant et si bien que Dieu dit dans sa Bible que lorsqu'il va le ramener à la vie, il sera à nouveau roi sur Israël. Même chose pour vous, même chose pour moi. Donc, je reviens à ça. Les deux moyens essentiels pour porter beaucoup de fruits, pour recevoir le Saint-Esprit, pour glorifier Dieu et pour aller vers la vie éternelle. Le premier moyen, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'humilité. Le premier moyen, c'est l'humilité. On sait que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous sommes tous orgueilleux au point de départ. Nous avons encore tous à nous libérer de l'orgueil qui peut nous rester encore. Mais c'est un processus dans lequel Dieu nous aide. Il faut reconnaître que Dieu a raison. Nous n'avons pas raison. C'est Dieu qui a raison en toutes choses. Quand Dieu nous dit une chose est blanche, elle est blanche. Quand il nous dit elle est noire, c'est noir. Quand il nous dit prenez tel sentier, ne faites pas telle chose ou faites telle chose, c'est ce qu'il nous faut faire. Même si ça peut sembler illogique à notre point de vue, si vous voulez. Comme le fait, par exemple, j'ai déjà vu ça, de verser la dîme lorsqu'on a un tout petit salaire. Ben oui, mais Dieu a promis que lorsqu'on est fidèle dans nos dîmes, il va nous bénir. Dieu a promis que si on est fidèle dans nos dîmes, il va nous bénir. Bien sûr, ça ne comprend pas juste ça. Je ne peux pas dire, je vais être fidèle dans mes dîmes, mais je vais sacrer ou je vais manquer le sabbat de temps en temps, je vais faire différentes choses, je vais traiter les autres mal, avec dureté et tout ça. Et parce que je suis fidèle dans mes dîmes, Dieu va me bénir. Non, c'est un ensemble. Il faut que je sois en train de m'approcher de Dieu dans l'ensemble de ses lois, même si je ne suis pas parfait dans chacune des approches. Mais il dit, payez vos dîmes et vous allez voir si je ne verse pas sur vous l'abondance. On voit ça dans Malachie. Et moi, je l'ai vu dans la vie de plusieurs membres de l'Église. Et des fois, on a dit à des gens, vous pensez que vous n'avez pas le moyen de payer la dîme? Moi, je vous dis simplement que vous n'avez pas le moyen de ne pas la payer. Parce que si vous la payez, Dieu va vous bénir. C'est une promesse. Vous pouvez la réclamer. Et je l'ai vu en action, cette promesse-là, à différentes occasions dans ma vie. En tant que ministre, là, j'ai eu à conseiller les gens. Alors, première chose, l'humilité. Reconnaître que Dieu a raison en toute chose. Que seules ses voies sont bonnes. Et le deuxième élément essentiel pour porter beaucoup de fruits, ce n'est pas de connaître la vérité. Peut-être que ça va vous surprendre. Ce n'est pas de connaître la vérité. C'est d'aimer la vérité. Connaître la vérité, c'est une chose. L'aimer, c'est autre chose. C'est vraiment la chérir, la considérer comme précieuse. S'en nourrir régulièrement, l'apprécier, apprécier ce que Dieu nous révèle dans sa Bible, lui dire, apprécier la splendeur de son plan, et lui dire encore, et le supplier de nous aider à arriver au bout, parce qu'il nous a fixé un but et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Tellement encourageant. Et je vais vous donner deux exemples dans la Bible qui vont vous montrer comment Dieu répond à ceux qu'il cherche et comment Dieu est proche de ceux qui sont proches de lui. Et comment il intervient au moment voulu. Bien sûr, Dieu a son horaire. Et parfois, on va demander quelque chose et il ne l'accorde pas tout de suite pour les raisons qu'il sait. Mais on peut savoir, par expérience même, que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose selon sa volonté, c'est comme si c'était déjà fait. Et on peut le prendre pour acquis. On attend simplement la réponse. De là, la patience ensuite. Comme exemple biblique de ça, et du fait que porter beaucoup de fruits, ça glorifie Dieu et que ça nous rend disciples de Christ et que Dieu est proche et qu'il répond, je vais vous donner l'histoire de deux rois de Juda. Et ça nous montre très bien l'importance absolue de l'humilité dont je vous parle aujourd'hui. L'exemple, le premier, c'est Asa. Asa, roi sur Juda, et après ça, son fils qui a régné après lui, Josaphat. Asa et Josaphat. Allez à 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Le roi Asa a bien commencé son règne. Il a favorisé l'adoration du vrai Dieu. Il a mis ça de l'avant dans la nation. Et il a développé l'organisation militaire de la nation. 2 Chroniques 14, versets 1 à 4. Assa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Ici, je dois vous dire que Assa était roi sur Juda, c'est-à-dire le royaume du sud. Les 10 tribus du nord étaient ce qu'on appelle la maison d'Israël. Et le royaume du sud, c'est la maison de Juda. Alors, Assa régnait sur Juda au sud. Verset 7. Alors, c'est fascinant. Assa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 soldats de Benjamin, portant le bouclier et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Donc, vous avez une armée ici de presque 600 000 hommes que le roi Assa avait sous ses ordres. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive une attaque massive d'un million d'hommes. C'est plus que 600 000, là. Un million d'hommes qui arrivent sous la direction de Zérakh, l'Éthiopien. Qu'est-ce que le roi Assa a fait? Le roi Assa avait l'humilité si importante dont je vous parle. Il reconnaissait sa faiblesse. Dieu appelle les faibles du monde, hein? Quand on reconnaît notre faiblesse et qu'on compte sur Dieu, Dieu répond. Il reconnaissait sa faiblesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Comme nous devons faire, soit dans les grands événements de notre vie, ou soit dans les petites choses. Parce qu'on soit, on doit s'habituer à marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est dans tous les événements de notre vie. Plus on apprend à le faire, plus on s'en approche de lui, plus il prend plaisir à nous répondre et à guider l'ensemble de notre vie, non seulement dans les grands éléments, mais dans les petits éléments de notre vie. Et quand on fait ça aussi, on apprend à lui dire merci pour toutes les bonnes petites choses qui nous arrivent, parce que tout nous vient de lui. Bon. Alors, il y a cette grande armée-là qui se présente maintenant pour attaquer le royaume de Juda. Qu'est-ce qui arrive? Assa, donc, cherche l'Éternel de tout son cœur. Versets 8 à 11. Zérakh, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et de 300 chars. Il s'avança jusqu'à Maresha. Assa marcha au-devant de lui. Ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsiphata, près de Maresha. Assa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles. » Oh boy, comme on peut dire ça régulièrement, hein? « À Dieu, toi seul peux venir en aide aux faibles. » Et il dit même aux forts, « Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Assa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Et vous pourrez lire la suite, ils ont ramassé un grand butin ensuite, puis ils sont revenus à Jérusalem chargés de choses formidables. Alors, les résultats ont été heureux. Assa a cherché Dieu, a demandé son aide. Et c'est Dieu qui a livré bataille, parce que c'est Dieu qui livre bataille pour les faibles que nous sommes. Mais regardez ce que Dieu a fait. C'est intéressant, Dieu nous parle de toutes sortes de façons. Parfois, c'est par des prophètes ou par ses serviteurs, et parfois, c'est par les circonstances. Mais là, il a envoyé son prophète pour dire à Assa qu'il avait bien fait. Regardez bien. Chronique, chapitre 15, juste un peu plus loin. Le ministre de Dieu ou le prophète souligne ici les leçons heureuses d'obéir à Dieu et de se confier à lui. 2 Chroniques 15, versets 1 et 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, le prophète, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, « Écoute-moi, Assa, et toi, Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Regardez le principe. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est pour ça l'importance de porter du fruit, d'être proche de Dieu, d'être connecté au Christ directement, d'être un serment directement branché sur le cep lui-même. Versets 3 et 4, on continue. « Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Ou, mettons ça dans d'autres termes, « Si vous vous éloignez de lui, il s'éloignera de vous. » Et parfois, ça se fait graduellement, ça ne se fait pas d'un coup. Mais Dieu nous laisse la liberté, et Dieu veut qu'on soit avec lui, mais si on s'éloigne, il y a des conséquences. Verset 3, « Pendant longtemps, il y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. » Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, le prophète est allé vers Asa et a dit, regardez, vous avez cherché l'Éternel, l'Éternel est avec vous. Il vous a donné la victoire là, sur ce million de soldats qui étaient aux portes de Jérusalem. Alors, vous avez bien fait. Verset 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays. Ça, il a renouvelé son énergie à faire le bien puis à enlever les faux dieux du pays. C'est ce que le roi a fait. Donc, il s'est encore approché de Dieu davantage. Verset 12, un peu plus loin. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Le roi Asa et les gens de Juda, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Et jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Israël se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Cherchez Dieu, et Dieu vous répondra. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Maintenant, regardez le verset 19. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Voyez-vous le résultat de chercher Dieu, d'être proche de lui? Dieu a répondu tout de suite et leur a donné ses grandes bénédictions durant toute cette période. Mais là, il arrive d'autres choses. La 36e année du règne d'Asa sur Juda, le royaume du sud, le roi d'Israël au nord, Pécha, a monté pour attaquer Jérusalem. Il y avait souvent des conflits entre les deux maisons, la maison du nord et la maison du sud. Qu'est-ce qu'Asa a fait? Première réaction, il a eu peur. C'est normal, c'est humain. Deuxième réaction, qu'il n'aurait pas dû faire, il est allé voir le roi de Syrie pour régler son problème. Il n'est pas allé devant le trône de Dieu, OK? Il n'est pas allé devant le trône de Dieu. Il est allé voir le roi de Syrie. Il a pris tout l'argent qu'il a trouvé. Il a pris l'argent même de la maison de Dieu pour l'envoyer au roi de Syrie pour dire, « Va attaquer Bacha, le roi d'Israël, pour que je ne sois pas attaqué, moi. » Et ça s'est produit. C'est ce qui s'est fait. Ça a fonctionné en apparence. Mais ce que ça disait à Dieu, c'est que le roi n'avait plus foi en lui. Le roi avait foi en l'argent. Le roi avait foi au roi de Syrie, à des aides humaines. Et le roi avait arrangé les choses à sa façon, sans consulter Dieu et sans s'en remettre entre ses mains. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dieu envoie encore son prophète ici. Là, pour le corriger et lui montrer son erreur, pour lui dire, écoute à ça, tu t'es trompé, c'est pas ce que tu aurais dû faire. Repends-toi, change, et Dieu va pouvoir t'aider. 2 Chroniques 16. C'est une histoire qui nous révèle énormément de choses. 2 Chroniques 16, versets 7 à 9. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant ou le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Et après ça, il lui rappelle qu'est-ce qui s'était passé avec l'armée d'un million qui était venue l'attaquer avant. Il dit, « Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée? » Avec des chars et une multitude de cavaliers. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui, sur l'Éternel. Il lui rappelle ça en voulant dire, là, tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voyez-vous? Et ça, c'est tellement rassurant pour vous qui cherchez de tout cœur à servir Dieu et à obéir correctement à ses lois. Dieu dit que ses yeux parcourent la terre, pour ainsi dire, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ses regards parcourent la terre pour voir quel est celui et celle qui a à cœur de vivre selon ses lois. Alors, ici, le prophète est allé faire ce reproche-là au roi. Il dit, tu t'as pas confié à Dieu, là. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Regardez le verset 10. À ça, il aurait dû dire, oui, je reconnais ma faute, comme David a fait. Quand le prophète est allé lui dire « T'as commis un péché » avec Bathsheba et tout ça. Là, regardez comment Asa réagit. Asa fut irrité contre le voyant, irrité contre le ministre de Dieu ou contre le prophète, si vous voulez. Et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Mais où sa méchanceté a commencé à se répandre, même à s'en prendre à son peuple, aux gens de sa nation. Celui qui rejette l'enseignant de Dieu rejette Dieu et il le repousse. Et plus Dieu est loin de la personne, moins Dieu lui répond. Aussi simple que ça. Et on voit la fin de l'histoire, qui est une histoire triste. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il est mort dans des conditions difficiles. Verset 12. La 39e année de son règne, Assa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Voyez-vous, il avait perdu le chemin, pour ainsi dire, d'aller vers Dieu. Il avait perdu le chemin d'aller vers Dieu. Une triste fin. Pourtant, il avait fait beaucoup de bien au début de son règne. Vous vous rappelez, il y a eu plusieurs années de paix, de prospérité. Il y avait eu beaucoup de bénédictions de Dieu. Mais il n'avait pas grandi spirituellement. Il n'avait pas gardé les fruits, il n'avait pas développé, il n'avait pas entretenu la flamme, si vous voulez, de rester proche de Dieu. Dans sa jeunesse, bien sûr, il reconnaissait sa dépendance totale envers Dieu. Mais là, ce n'était plus le cas. Ça faisait plusieurs années que ça allait bien, qu'il y avait de la paix, qu'il y avait de la prospérité. Et ça lui avait donné, humainement parlant, l'illusion de puissance et l'illusion de grandeur et d'autosuffisance. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis le roi. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait mis en charge là et que c'est ce même Dieu qui l'avait délivré avant des choses difficiles qui étaient arrivées. Alors, ce roi-là est décédé. Là, vous voyez son histoire. Maintenant, on va voir son fils. Et son fils a été différent. Josaphat a régné à sa place. Lui, Josaphat, était humble, comme son père était au début. Mais il a été humble tout le temps. Il a fait confiance à Dieu au début de son règne, mais il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il a appris des leçons, pareil, comme on a tous à apprendre des leçons. Mais il a gardé confiance en Dieu et il a eu des résultats heureux dans sa vie. Dieu sera avec vous. Rappelez-vous de ça? Dieu sera avec vous si vous êtes avec lui. Pas si vous êtes parfait, si vous êtes avec lui et que si vous marchez pour devenir parfait. 2 Chroniques 17, verset 1. 2 Chroniques 17, verset 1. Voyons l'histoire de Josaphat. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël, la nation du Nord, la maison du Nord. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Assa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements. Voyez-vous, il n'a pas juste demandé l'aide de Dieu, mais il a suivi ses commandements. Ça, c'est la deuxième partie qu'il nous faut. Sans imiter ce que faisait Israël, la nation méchante du Nord avec son méchant roi. L'Éternel a fermé la royauté entre ses mains, entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit. Ah! Mais regardez comment son cœur grandit. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Voyez-vous? Son cœur ne s'est pas grandi en s'enorgueillissant ou en disant « c'est moi qui ai le patron ». Son cœur a grandi en s'humiliant dans les voies de l'Éternel, en marchant dans les voies de Dieu. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Alors, Josaphat était un homme généreux, on le voit dans son histoire, toujours prêt à aider. En fait, il y avait un petit défaut. Parfois, nos défauts sont l'exagération de certaines qualités. Et dans le cas de Josaphat, il était un peu trop prêt à aider tout le monde. Il faut aider les autres, mais il faut le faire avec sagesse et avec discernement. Et le roi Josaphat, ici, a été trop généreux, a manqué de sagesse et de discernement en ce qui concerne le royaume du Nord, la maison d'Israël. 2 Chroniques 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Achab, c'est le roi d'Israël au Nord. Alors, il a marié une des filles d'Achab, le roi du Nord. Les années ont passé et tout ça. Et à un moment donné, son beau-père, parce qu'il était devenu son beau-père, même si c'était un roi méchant, son beau-père lui a demandé de s'allier à lui pour aller attaquer la région de Ramoth. Je ne vous donnerai pas tout le détail, vous pourrez le lire. Alors, son beau-père veut attaquer la région de Ramoth et il demande à Josaphat de mettre son armée à son service avec ses soldats pour aller attaquer la région de Ramoth. Josaphat n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, aller à une consultation complète, réelle avec Dieu. Il a parlé de Dieu à l'autre roi, et l'autre roi a fait venir ses devins à lui. Et là, il y a eu plein d'allers-retours. Michée a été appelé, et Michée a été maltraité finalement, mais Josaphat n'a pas réagi à ça. Et il a continué le projet de son beau-père d'aller attaquer Ramoth. Et il a passé proche d'y laisser sa peau. Passé proche, Dieu l'a protégé. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Verset 28 à 34. Pour vous montrer comment le roi d'Israël était méchant, ratoureur, hypocrite, il a décidé, lui, de pas mettre son habit de roi pour pas être tué, alors que Josaphat, lui, a mis son habit de roi pour aller au combat, comme les rois faisaient. Alors, regardez ce qui s'est passé. Regardez comment Dieu est puissant. Dieu sait qui lui appartient. Dieu connaît le cœur. Il connaissait le cœur de Josaphat et il connaissait le cœur du roi d'Israël. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser, hypocrisie, détour, pour aller au combat. Mais toi, revêt tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. OK? Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. OK? Alors, il visait le roi d'Israël, il visait le roi de la maison du Nord. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, qui avait ses habits royaux, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Voyez-vous comment c'était mêlé? Puis, écoutez, dans une bataille, là, c'est pas tout évident, les soldats arrivent en vitesse, il y a un roi, il y a quelqu'un qui a un costume de roi, et dit, ça c'est le roi d'Israël, c'est lui qu'il faut tuer. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Il n'y a pas d'issue, là. C'est une situation sans issue. Vous êtes dans une bataille, ça se livre rapidement, le monsieur a son costume de roi, les autres ne connaissent pas le visage d'un des rois ou de l'autre des rois. Ils voient le costume, ils disent, c'est le roi qu'il nous faut abattre. Qui peut arrêter ça? Personne, sinon le Tout-Puissant. Josaphat, qui était proche de Dieu, poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Voyez-vous, ça n'a pas été long, hein? Un cri à Dieu. Je ne sais pas s'il a dit père ou au secours, ou je ne sais pas, le cri n'est pas clair, mais ce n'est pas une longue prière, là. C'était vite sa presse. Et regardez, l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Il a écarté ces soldats-là de lui. Le seul dans la bataille qui avait des costumes royaux. Pourtant, ces soldats-là avaient la directive précise de tuer le roi. Voyez la situation, là? Comment Dieu est puissant et comment Dieu est proche de quelqu'un qui est proche de lui et comment Dieu réagit, comment Dieu répond. Et comment Dieu va faire quand le temps va venir de démêler les gens? Qui va aller au lieu de sécurité et qui n'ira pas? Aussi, Dieu connaît les cœurs. Pas besoin d'être inquiet. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira, regardez bien maintenant le sort de l'autre roi, là. Alors un homme tira de son arc au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le méchant roi d'Israël qui s'était déguisé, qui avait été hypocrite, qui s'était fait passer pour un autre, la flèche au hasard l'a frappé, pas n'importe où, mais au défaut de la cuirasse. Il y avait des grandes cuirasses pour les protéger, mais au défaut de la cuirasse, il y avait des ouvertures, des petites ouvertures pour les bras et tout ça. Ça a frappé au défaut de la cuirasse pour atteindre les parties vitales et il est mort. La flèche est allée au hasard? C'est écrit au hasard. Mais Dieu dirige les choses. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu sur son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Le roi, qui était proche de Dieu, qui faisait sa volonté, même s'il n'était pas parfait, mais qui avait un cœur humble et qui voulait changer, qui recevait les instructions et qui se corrigeait lorsque Dieu lui montrait de se corriger, Dieu l'a protégé. Un cri, et Dieu a répondu tout de suite. Alors que l'autre, hypocrite, qui s'était dissimulé, a été frappé directement à un petit défaut de cuirasse par une flèche lancée par un soldat au hasard. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Maintenant, Dieu n'a pas laissé ça là. Il est allé parler à Josaphat. Parce que Josaphat n'avait pas agi correctement. 2 Chroniques, chapitre 19, maintenant, versets 1 à 3. Il lui a adressé des reproches. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison après ces combats-là, à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant? » Et aimes-tu celui, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? » Autrement dit, il dit, Josaphat, là, tu t'es allié à quelqu'un qui haït Dieu et qui haït ses serviteurs et qui a fait frapper son prophète. Tu t'allies avec ces gens-là et tu penses que c'est correct. Donc, c'est un reproche à ce roi-là. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais regardez le verset 3. L'Éternel regarde au cœur. Il nous arrive de manquer notre coup. Mais si on se repent, l'Éternel regardant au cœur nous donne la chance de changer et nous bénit. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Tu as des fruits en toi. Car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Voyez-vous? Donc, oui, mais regarde, Dieu ne laisse pas passer les choses sans t'avertir que tu as mal agi, mais Dieu a vu les bonnes actions que tu as faites, les bons fruits dans ta vie, et Dieu est encore avec toi. Sa réaction à la correction, vous pourrez la lire vous-même, dans une attitude d'humilité, il a continué à enlever les faux dieux du pays, puis à enseigner les lois de Dieu. Il a même dit aux magistrats qu'il a établis, « Faites attention à votre façon de diriger les choses. Soyez selon les lois de Dieu. » Vous pourrez lire tout le contexte de 2 Chroniques 19, versets 4 à 11. Alors, comme vous et moi, le roi Josaphat a fait des erreurs durant sa vie. Mais il s'est humilié de ses erreurs et il a aimé la vérité. Il a aimé la vérité. Mais plus tard, les Ammonites et les Moabites, ont envahi le pays. Réaction de Josaphat, il avait appris sa leçon. Il a proclamé un jeûne et il a supplié Dieu de les délivrer. Deux Chroniques, chapitre 20. C'est une superbe histoire qui nous apprend tellement de choses. Deux Chroniques 20, versets 1 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il n'est pas allé vers un autre roi comme son père. Il a cherché l'Éternel tout de suite. Et il publia un jeûne pour tout Juda, comme on doit faire dans plusieurs circonstances, lorsqu'on a besoin de Dieu, c'est qu'on a besoin de se rapprocher de lui pour qu'il soit proche de nous. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et regardez le verset 12. « Ô notre Dieu, c'est la prière qu'ils lui ont adressée, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, sur ceux qui viennent nous attaquer? Car nous sommes sans force, comme vous et moi individuellement, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons pas quoi faire. » Nous ne savons que faire. Est-ce qu'on ne dit pas ça souvent dans certaines situations? Je ne sais pas quoi faire, quel côté prendre, quelle décision prendre. Et regardez le verset 17, verset 13, pardon. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et regardez verset 15, Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Quand on est proche de Dieu, on peut compter sur Dieu pour combattre pour nous, mais il faut être proche de lui. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et regardez le verset 20, le lendemain matin, qu'est-ce que Josaphat a dit à ses hommes? Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Après leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Il avait appris la leçon, hein? Et il la gardait, il tenait. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, ses serviteurs, et vous réussirez. » Observez son gouvernement, respectez son gouvernement, et vous réussirez. Et Dieu leur a donné une victoire totale. Vous pourrez lire le reste du récit. Dieu répond à la personne qui a un cœur humble, qui reconnaît son impuissance et qui jeûne régulièrement pour s'approcher de lui et lui demander de faire sa volonté. Dieu est proche de celui qui désire changer et être corrigé et qui accepte la correction de Dieu. Ça, ce sont des fruits à la gloire de Dieu. Et Dieu répond à ses enfants qui le cherchent humblement. Nos nations orgueilleuses, elles, ont fait le contraire. On fait le contraire de ça. Nos nations le rejettent et même le méprisent. Aux États-Unis, on n'accepte même plus d'avoir les 10 commandements affichés publiquement dans plusieurs États américains, alors qu'on fait la promotion des droits de l'homosexualité et ainsi de suite. C'est le contraire complètement qui se passe. On rejette Dieu, on méprise la vérité de Dieu, on méprise ses lois, on méprise ses fêtes, on méprise même son existence. On le rejette totalement. Et c'est pas pour rien qu'on a devant nous les signes annoncés pour les derniers jours que vous pourrez aller voir dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, quand il dit, Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les gens vont être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, insouciants, cruels, amis des gens qui causent le mal, et ainsi de suite. Nos nations se sont détournées. Elles commencent à en payer le prix, et puissamment. On le voit dans les bouleversements climatiques, on le voit dans les bouleversements de l'économie également, surtout en ce qui concerne l'Angleterre et surtout en ce qui concerne les États-Unis. Je vais vous rapporter un petit quelque chose que j'ai trouvé dans les nouvelles la semaine dernière, qui en disent long sur l'état de la nation américaine. Et sur le fait que Dieu va ébranler très puissamment, encore beaucoup plus prochainement, cette nation-là. Il y a une petite ville aux États-Unis. En fait, c'est la plus grande ville américaine à faire banqueroute actuellement. La ville, elle est en faillite. OK? Parmi les villes qui sont en faillite, c'est pas la première, mais c'est la plus grande. Elle existe depuis 162 ans. Et dernièrement, le conseil de ville, ça c'est en Californie, c'est la ville de Stockton, en Californie. Une ville américaine, États-Unis, qui disent « En Dieu, nous avons confiance », c'est marqué sur leur monnaie, « In God we trust ». Vous savez ce qu'ils ont fait pour avoir de l'aide, parce qu'ils étaient en banqueroute? Ils ont demandé à un prêcheur hindou de venir faire la prière au conseil de ville pour demander que leur situation financière se règle. Un ministre hindou qui s'occupe d'écuménisme et qui est en charge de différentes organisations religieuses. Son nom est Rajan Zed. Z-E-D. Et il a commencé sa prière par le genre d'invocation hindoue. Vous savez, le et on finit par la même chose. Et en priant ses dieux et en invoquant ses dieux. Aux États-Unis. Nation qui se dit chrétienne, qui dit obéir à Dieu. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ne croient même plus à Dieu, au point même de faire venir des ministres qui sont des ministres contraires à Dieu pour prêcher dans leur ville, pour leur demander de sortir de leurs problèmes économiques. Ils n'en sortiront pas. Ils vont y pénétrer encore plus profondément. C'est ce qui va se produire. D'ailleurs, simplement comme une petite note en terminant pour vous montrer qu'est-ce qui nous attend également au niveau de l'économie, et en particulier en ce qui concerne les États-Unis, vous avez vu dernièrement que depuis 2008, il y en a eu crise financière qui a frappé les gouvernements. Maintenant, on a crise financière qui frappe les banques, le système financier. C'est un autre niveau. Et ça va ébranler toute la structure mondiale. Ceux qui regardent les nouvelles sur TV5, les nouvelles françaises, on a mentionné la semaine dernière que plusieurs grandes banques sont maintenant prises à défaut en manipulant les taux d'intérêt pour l'argent qu'elles se prêtent entre elles. Elles ont procédé à diverses manipulations, de la tricherie, du camouflage, du blanchiment d'argent pour des milliards de dollars, et ça sort maintenant. Donc, la confiance commence à s'éroder énormément. Et M. Jean-Paul Chappelle, qui est un commentateur sur TV5, disait ceci, « La folie des banques dépasse ce qu'on pouvait imaginer, maintenant que ça sort publiquement. Tricherie, manipulation, camouflage. » Et vous avez des banques qui sont touchées comme la Barclays de Londres, RBS, Royal Bank of Scotland, UBS, UHBC et Banque d'Angleterre, et d'autres également comme la Morgan, JP Morgan aux États-Unis. Le monsieur continue en disant ceci, « On a toujours... On n'a tiré aucune leçon du passé, à partir de la crise de 2008 même, par rapport à la crise des subprimes. C'est très inquiétant. Les banquiers n'ont rien compris, n'ont rien appris. Ce qui les guide, c'est la recherche du profit sans aucune morale, sans aucune éthique. C'est exactement ça. Amis de l'argent, fanfarons, rebelles, irréligieux, comme on voit dans ce que Paul dit dans Timothée. Ce qui les guide, la recherche du profit sans aucune morale, sans aucune éthique. Si on ne peut pas avoir confiance ni dans les dirigeants des banques, ni dans les régulateurs, c'est-à-dire les banques centrales, qui n'ont rien vu venir ou qui n'ont rien voulu voir venir, c'est tout le système financier mondial qui est alors menacé. Alors, il y a des choses majeures qui s'en viennent, mais ce n'est pas pour rien. Parce que plus nos nations se détournent de Dieu, plus Dieu s'éloigne d'eux, moins les bénédictions sont là. Dieu retire ses bénédictions et nos nations vont goûter à ce que c'est que d'être séparées de Dieu. Oui, il y a des temps difficiles qui viennent. Mais Dieu a promis de sauver ses serviteurs. Dieu a promis de les protéger, de les garder. Vous avez vu tantôt ce qui est arrivé à Josaphat alors qu'il était menacé directement par l'armée. Lui, serviteur proche de Dieu, Dieu l'a épargné. Alors que le méchant roi d'Israël, lui, qui s'était déguisé pour ne pas être perçu, a été touché et a été abattu. Dieu va protéger ses enfants au temps de la faim. Il nous faut marcher humblement avec notre Dieu, chérir la vérité. Porter le signe que Dieu nous donne, le sabbat, ses fêtes, les chérir, les aimer. Bientôt, le grand faux prophète va séduire l'ensemble de l'humanité par de grands prodiges, alors que les deux témoins de Dieu vont faire de grands miracles et vont annoncer la précieuse vérité de Dieu à travers le monde entier. C'est là que l'Évangile va être annoncé à la plus grande échelle dans toute l'histoire de l'humanité. À vous et à moi, Dieu a donné la vérité. Dieu a donné la perle précieuse, la perle de grand prix. On l'a acceptée. Nous la chérissons et nous devons la chérir encore davantage. Supplions-le de nous transformer par son Saint-Esprit, de nous donner de porter beaucoup de fruits pour qu'il soit glorifié et que nous accomplissions son œuvre jusqu'au bout, maintenant que la fin est si proche. Alors, je vous rappelle ce qui est marqué dans 2 Chroniques 16, verset 9, en terminant. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.